Dans les ateliers, nous allons approfondir des textes de Michel Causse pour, digérer, pour manger et digérer un petit peu sa pensée. Hein. Alors, je vais vous proposer plusieurs textes et vous choisirez ceux qui vous disent hein, pour travailler. Il y a un texte sur la qui s'appelle « Une politique textuelle inédite, l'alphalecte ». C'est un petit texte sur l'alphalecte. Bon. Un autre texte qui s'appelle, qui a un titre tout à fait pompeux auquel il ne faut pas faire attention, « Stratégie d'annulation du genre dans les paraboles parasites de Monique Wittig ». Bon, ne faites pas attention au titre, où elle explique bien comment elle voit les choses, l'utopie, son utopie, et la différence avec le « on » de Monique Wittig. Ensuite, il y a un texte très intéressant que Michel Causse a écrit, mais peut-être vous le connaissez déjà presque toutes, c'est « Pourquoi les gays ne peuvent être les objets, les alliés objectifs des lesbiennes ?» Donc, ce texte aussi mérite, surtout dans le contexte où nous sommes, hein, mérite tout à fait d'être digéré, étudié. Et est-ce que ça t'inspire après la conversation qu'on a eue, hein, ça serait bien hein, qu'on discute de ça. Le texte sur les gays. Et puis, je vais vous parler d'un article que Michel Causse a écrit sur Valérie Solanas. Est-ce que vous savez, tout le monde sait plus ou moins qui était Valérie Solanas. Oui ? Non ? Non, non. Oui. Elle a écrit, c'est une lesbienne américaine qui a écrit un pamphlet, oui, on peut dire quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très violent, comme c'est un pamphlet, hein. C'est très court et très violent, contre la classe des hommes. Et donc, ou on l'adore, ou on la déteste, hein, parce que on n'est pas habitué tellement elle développe tout ce pamphlet sur la haine des dominants. Et ça, c'est encore tabou chez nous. Hein. Alors donc, c'est un texte un petit peu violent. Et Michel Causse a écrit un article pour expliquer justement pourquoi elle a écrit ce texte. Et elle nous l'explique un peu. Elle nous donne. C'est une mine de réflexion, ce texte. Hein. Même si on est choqué par la violence du texte, c'est une mine de réflexion. Alors, il y a aussi un atelier sur Valérie Solanas elle-même qui a écrit ce petit pamphlet. Il se présente comme ça sur Internet. Ou bien il se présente aux éditions des Mille et Une Nuits et à la librairie, là, vous devriez le trouver à partir de demain, à la librairie de la salle des machines. C'est un petit texte, comme quoi, vous voyez, mais bien dense. Michel Causse, elle aime beaucoup s'occuper des lesbiennes méconnues ou mal connues ou oubliées. Elle a fait donc un travail sur Nathalie Barnet et elle a fait aussi un travail sur Valérie Solanas. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, hein, qu'elle aille chercher... les personnes inconnues ou méconnues, les lesbiennes inconnues ou méconnues, et qu'elle essaye de les remettre au goût du jour. Hein. Alors, il y a le dernier atelier, c'est sur Valérie Solanas, c'est l'article qu'elle a écrit dessus. Alors, je répète, pour que vous vous rappeliez bien, il y a un premier atelier sur l'alphalecte, deuxième atelier sur la théorie de Wittig et la théorie de Causse qui ne sont pas les mêmes, hein, sur le changement linguistique. Il y a la lecture du texte sur les gays et il y a donc Valérie Solanas et Michel Causse.
Bon. Alors je vous préviens, c'est en vrac, hein, mes réflexions, donc je suis désolée. Alors, sur le premier point, les gays appartiennent à la classe des hommes et jouissent des privilèges de cette classe. Donc effectivement, hein, on ne voit pas les gays, par exemple, dans les manifestations pour revendiquer l'égalité des salaires, à travail égal, salaire égal. On ne les voit pas manifester contre le temps de travail partiel, parce que ce qui fait baisser le salaire des femmes, c'est bien souvent le travail à temps partiel. Donc effectivement, toutes ces luttes-là, elles sont propres aux femmes. Alors après, on va rentrer dans femmes lesbiennes ou hétéros. Après, on va rentrer en sachant encore que la situation des lesbiennes économiquement est bien pire que celle des femmes hétérosexuelles, puisque quand on vit en couple hétérosexuel, on profite aussi des avantages du salaire du conjoint. Ensuite, le deuxième point, alors le culte du pénis, il suffit d'ouvrir les yeux, c'est sans fin. Ce qu'elle appelle la totémisation du pénis, le film L'inconnu du lac, hein, qui vient de sortir. Et puis, indépendamment de ce film, qui est pas si, en plus, moi, je l'ai pas détesté, ce film, hein, mais c'est surtout que quand on se promène sur les autoroutes, par exemple, vous avez le 1% culturel, là, où il faut, pour tout grand travaux d'aménagement, produire une œuvre artistique dédiée à la culture. C'est incroyable, les formes phalliques qui surgissent de partout. Il n'y a pas que les clochers ou les minarets, hein, mais vous voyez des colonnes qui se terminent toujours par une forme très, très phallique. L'homosocialité, alors ça, c'est peut-être ce que les gays appellent la mixité, puisque la mixité, pour eux, c'est au mieux 75-25 ou 80-20 dans les associations. Donc, effectivement, sans parler du sport, alors là, le monde du sport, lui, il est... complètement misogyne, hein. C'est quand on parle football, le football féminin qui réussit bien mieux en ce moment que le football masculin ne passe pas à la télévision. Ensuite, qu'est-ce que j'avais relevé encore? Ah oui, si, pour la totémisation du pénis. Alors, on parlait des queers tout à l'heure. Donc, la mode queer, c'est aussi la mode du godemiché. C'est pas le clitoris. Les queers se sont pas emparés du clitoris. Le totem des queers, c'est pas le clitoris. C'est bien le godemiché. Donc, on revient toujours à la supériorité des attributs masculins.
On est en plein dans le fi, hein?
Ah oui, voilà. Voilà, c'est ça. Le fi, c'est ça. Fi, donc. Et puis, ah oui, sur le rapport entre le sida et le cancer, effectivement, tant mieux, hein, je m'en réjouis, mais on a avancé quand même très vite. Je ne sais pas si dans l'histoire de la médecine, on a progressé aussi vite pour trouver des traitements et même un vaccin que dans la maladie pour le sida. Alors évidemment, ce que je dis là est un peu faussé par le fait que la science aujourd'hui permet des avancées plus rapides qu'autrefois. Mais quand même, sur les cancers, effectivement, on avance pas beaucoup. Et puis surtout, là, il y a une opposition très forte entre le sexe masculin qu'on va protéger à travers le préservatif et le sexe féminin, que dans nombre de peuples encore aujourd'hui dans le monde, eh ben on enlève carrément, on le coupe. Je vais terminer par peut-être le plus... Ah non, un point... Ah oui, alors il y a deux choses. Il y a une chose où je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec Michel Cos, c'est à la fin du texte, quand elle parle de l'amoindrissement de l'être masculin, la fameuse chute ontologique, l'appauvrissement, l'affaiblissement de l'amoindrissement, voilà, c'est son terme, de l'être masculin. Le fait d'être homosexuel et le fait pour un homme de faire l'amour avec un autre homme, elle pense que la société hétérosexuelle le considère comme un amoindrissement. Je ne suis pas sûre que ce soit la nature de la relation sexuelle qui soit un amoindrissement. J'ai l'impression que dans l'inconscient, c'est plutôt le fait que cet acte sexuel ne soit pas tourné vers la reproduction. Et je pense que c'est plutôt ça qu'on reproche aux gays. C'est pas tellement qu'ils fassent l'amour entre eux. Et alors là, on en arrive à ce par quoi je voulais terminer, qui est que le jour où la GPA sera adoptée, eh ben à ce moment-là, les gays auront absolument tout. Ils auront réussi la synthèse parfaite. Ils feront l'amour entre eux et ils auront accès à nos corps pour faire leurs enfants. C'est là que Michel était peut-être pas encore... Enfin, je pense que si, elle était sensibilisée à ce problème-là. Mais là, on est en plein cette année dans des débats qui nous l'ont mis bien, bien précisément en tête. Voilà.
Merci Marie-Pierre. Claude, tu ne devais pas continuer ?
Bon, moi j'ai fait la petite synthèse suivante, rapide, qui est un peu différente, mais qui complète tout à fait, sans rien contredire du tout. au contraire en aboutissant tout à fait à une conclusion similaire. Voilà, il me semblait... Bon, j'ai procédé comme j'ai l'habitude de procéder. Si ça vous ennuie, vous criez bien fort et je m'arrête. Voilà. Il me semble que le texte, en fait, complet que j'ai travaillé est beaucoup plus structuré et beaucoup plus rédigé que la petite préparation, je dirais, que d'autres copines ont eu à leur disposition. Alors, c'est un texte structuré qui part... voilà. L'objectif de Michel Koz dans ce texte est de démontrer en quoi et pourquoi une lutte lesbienne politiquement efficace est une lutte autonome et pas une lutte avec les gays. Et elle veut démontrer, elle veut trouver des arguments qui démontrent que pour les lesbiennes, en fin de la lutte avec les gays, la lutte mixte, ce que nous appelons maintenant, parce que l'article date de 1996, les associations LGBT qui sont tout à fait dominantes et extrêmement nombreuses et plus ou moins groupées, c'est pas ça qui va permettre aux lesbiennes et à la classe des femmes, parce qu'elles font partie de la classe des femmes et pourront pas s'en libérer sans une libération de la classe des femmes, ces mouvements LGBT, c'est un piège. Il faut en sortir. C'est pas ça qu'il faut. Même si elle reconnaît que des unités d'action ponctuelles sur des points précis peuvent être de bon aloi, tout à fait efficaces. Après tout, moi j'ajouterais, on peut également envisager des unités d'action ponctuelles sur des points précis. Unité d'action, ça veut dire qu'il y a une action commune, mais on a nos propres revendications et la propre manière de les poser, avec tout à fait d'autres fractions de classe ou avec d'autres groupements que les gays. Mais bon, ça peut être envisagé sur des points ponctuels. Elle en donne un exemple. Elle dit, par exemple, eh bien, un mouvement autonome de lesbiennes en Italie s'est uni ponctuellement aux mouvements LGBT, aux associations LGBT, pour une manifestation, une lutte bien précise contre les dictats du Vatican. À un moment donné, ils ont envisagé une lutte commune. Pourquoi pas? Mais en dehors de... Mais cela étant dit, c'est pas dans une lutte mixte qu'on peut penser une libération de la classe des femmes ou un progrès dans leur libération et une libération des lesbiennes à l'intérieur de la classe des femmes. Alors, pour le démontrer, elle pose un principe politique. On parlait tout à l'heure de la transmission. Je crois que la transmission, c'est ça aussi, c'est dire que poser le problème de l'oppression des femmes en termes de classe des hommes, classe des femmes, c'est-à-dire classe de sexe, la classe des hommes et la classe des femmes n'existant que conjointement, c'est-à-dire il n'y a pas de classe des femmes s'il n'y a pas de classe des hommes, hein. Bon, c'est un principe politique qui est un principe politique fondamental dans le lesbianisme radical et dont Michel Koz se revendique. Elle part de là et elle constate quoi? Eh bien, elle constate que les gays font partie de la classe des hommes. Et parce qu'ils font partie de la classe des hommes, même si je peux avoir un copain qui soit homosexuel, même si je peux avoir un bon copain qui soit un homme hétéro, même si j'aime bien mon grand-père, même si, etc. Le problème de classe demeure. Poser les choses en termes de classe, c'est bien dire que le problème ne se réduit pas à une somme d'individus et même ne concerne pas une somme d'individus, mais bien un problème de classe, une classe dépassant complètement parce que c'est un phénomène, une classe, parce que c'est un mouvement, une classe, dépassant complètement la somme des individus qui la composent. Alors, les gays, les homosexuels hommes, font partie de la classe des hommes. Comme ils font partie de la classe des hommes, leurs intérêts sont les intérêts de la classe des hommes. Le système qui est mis en place, ce qu'on appelle l'hétérosystème ou l'hétéropatriarcat, peu importe, l'essentiel, c'est qu'on désigne bien la même chose. Peu importe. C'est le leur. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de ce système, deuxième point, Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de ce système, qu'ils adoptent, qui est le leur, qu'ils cautionnent, qu'ils admettent, qu'ils entérinent. Bon, c'est pour ça qu'ils revendiquent à l'intérieur de ce système des privilèges qu'ils considèrent comme les leurs et qui sont les leurs. Alors, elle avance un deuxième argument pour bien montrer que ce sont bien des hommes membres de la classe des hommes, le culte du pénis. Le culte du pénis est cette manière de se désigner et de désigner son pouvoir, parce que ce qu'elle appelle la synecdoque, c'est pas seulement la désignation d'une partie de leur corps désignant le tout, c'est aussi un organe de leur pouvoir désignant leur pouvoir dans leur ensemble, dans son ensemble, et symboliquement désignant son pouvoir. Quand elle avance l'argument du privilège de l'homosocialité de la part des gays, l'homosocialité, c'est un modèle comportemental, c'est un modèle de pouvoir, c'est un modèle social à l'intérieur duquel on se coule ou on ne se coule pas. Et les gays se coulent dans ce modèle social-là parce que c'est le leur. Alors, il va de soi que le dernier point, le point D, là, il laisse aux lesbiennes un statut inférieur, concerne bien évidemment le rapport des gays et des lesbiennes dans le cadre d'une lutte mixte. Et dans le cadre des luttes mixtes, effectivement, les gays laissent aux lesbiennes un statut inférieur. Bon, elles sont très minoritaires, elles n'ont pas grand-chose à dire, finalement, mais de toute façon, effectivement, la revendication est portée par les gays. On l'a bien vu au moment de la revendication du mariage. Cette revendication du mariage, qui est venue après une revendication qui était essentielle pour les gays, mais qui a beaucoup moins bien marché, le mariage était beaucoup plus porteur, et puis la Commission européenne en parlait bien davantage et était prête à l'accepter. Et quand la Commission européenne est prête à accepter quelque chose, l'État français accepte quelque chose. C'était la pension de réversion. La pension de réversion, depuis, oh là, 2000, 2002, 2004, en 2011 encore, il l'a réclamé à Roselyne Bachelot, au moment où la loi que prévoyait Roselyne Bachelot déremboursait un certain nombre de médicaments, non pas du tout en les classant dans les médicaments de confort, comme par exemple le Diovénor, qui a pu servir à pas mal d'entre nous à résoudre de modestes problèmes de fibromyalgie. Et vraiment à les résoudre, c'est-à-dire, bon, ben, ça y est, après, il n'y avait plus de problème, on passait, ça s'arrangeait très bien, il n'y en avait pas besoin d'être opéré, ce qui est quand même très intéressant, j'estime pas que ce soit un confort. Hein. Ceux-là, on les déremboursait. Mais ce qui intéressait les gays, c'était la pension de réversion. Il y a une lettre, qui est d'ailleurs publiée sur Internet, de l'inter-LGBT de l'époque, en 2011, qui dit, Madame Roselyne Bachelot, nous nous adressons à vous. En somme, ils ne disent pas, vous pouvez dérembourser tous les médicaments que vous voulez, on s'en cague. Mais il faut que vous nous donniez, bon Dieu, la pension de réversion. Parce que c'est vrai qu'on a des salaires en moyenne de 35% supérieurs aux femmes. Vous ne croyez pas qu'on va laisser tomber les retraites du coup, ça serait vraiment du gaspillage. Voilà. Et juste une dernière chose, j'ai beaucoup parlé. Il n'y a qu'un point, moi, que je trouve un peu curieux et avec lequel je ne serais pas forcément tout à fait d'accord avec Michel Causse, avec cet article en tout cas. À la fin, elle dit ceci, c'est à eux, c'est-à-dire aux gays. Hein, je vais la citer, je crois que c'est le mieux. Voilà. Elle écrit, c'est aux gays que revient le devoir de se désolidariser de leur classe de sexe, de refuser l'intégration, assimilation aux hétéros et de mener une vraie politique contre le déterminisme génétique dissimulant le fait que l'hétérosexualité est en réalité un régime de pouvoir. Et moi, je pose la question, c'est aux gays que revient le devoir. Et pourquoi le ferait-il? Pourquoi irait-il remettre en question un système dont il profite et qui les avantage? Pourquoi irait-il remettre en question un système à l'intérieur duquel ils ont le pouvoir, Ils réclament des privilèges et les obtiennent. Ils sont les dominants. Pourquoi des dominants iraient-ils remettre en question leur domination ? Faudrait vraiment avoir un sens politique, mais alors, et un sens de l'intérêt général, d'une acuité. Et je me demande si une telle chose est possible. Et je pose la question, pourquoi voulez-vous que les gays remettent en question un système qui désarrange, qui est le leur ?
Merci Claude.
Je suis atterrée de voir ici les lesbiennes détester autant, à ce point c'est suspect, les hommes, et y compris les gays. Je suis atterrée. Les gays, on oublie que les gays, qui profitent soi-disant du système des hétérosexuels, on oublie les refuges à Paris, à Marseille, à Nice, les refuges qui sont pleins de gens renvoyés de leur boulot, renvoyés de leur famille. Cette haine, elle est suspecte, enfin. Oui, ils ont un pénis. Oui, c'est leur lieu de jouissance. Oui, c'est le leur. On n'a rien à voir là-dedans. On a le nôtre, on a du boulot à faire, nous, avec notre clitoris. Qu'est-ce que c'est que ce regard qu'on porte sur ce pénis ? Mais enfin, Freud avait quelque part raison quand il a dit « les femmes sont des hommes castrés ». On en est là, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis atterrée.
Bon, on a compris.
Qu'on n'ait pas. Non, mais je n'ai pas fini. Parce que c'est important quand même. Moi, je découvre tout ça en même temps, là. Je veux dire. Oui.
Qu'on soit entre nous et qu'on se sente ça, qu'on se
t'as raison. Merci. Bah, je suis désolée, c'est vrai.
Allez, continue, parce qu'on a encore autre chose à faire. Hein. Continue.
Je suis très surprise, c'est tout, voilà. Parce que moi, je n'ai pas cette vision, ni des gays, ni des hommes. Mais que dans cette société, Dieu sait s'il y a des luttes féministes, les féministes, on n'est pas les seules lesbiennes à lutter contre l'inégalité des hommes et des femmes. Il y a des tas de femmes hétérosexuelles qui sont dans ces luttes-là. On n'est pas les seules à avoir remarqué à quel point, en effet, le système est contre nous. On a, nous, les lesbiennes, à lutter sur deux plans, c'est évident. D'abord, en tant que femmes, pas du tout avantagés par ce système, et en tant que lesbiennes. Mais les gays, ils ont à lutter aussi. Ils ont des luttes qui ne sont pas les mêmes. Je suis d'accord, je ne suis pas pour qu'on lutte ensemble. J'avais été interrogée à France Culture. Comment ça se fait, m'avait dit le journaliste, et j'ai été restée silencieuse, je ne m'attendais pas. Le journaliste m'avait dit, comment ça se fait que vous n'avez jamais été dans les mêmes luttes, les garçons et les filles ? J'ai dit, parce qu'on n'est pas pareils. On n'est pas les mêmes, on n'a pas la même posture dans la société. Ils ont les leurs, mais je ne suis pas en train de mépriser comme vous faites vous. Voilà, j'ai fini parce que je vais encore m'aider. Merci. Voilà, j'attends
les contradictions. Alors, c'est la dernière intervention sur les gays. Après, on passe à Valérie Solanas.
Moi, j'ai dit juste des anecdotes pour rigoler si ce ne serait pas à pleurer.
Bon.
Pardon, si ce ne serait pas à pleurer.
Vas-y, parle bien fort.
Je viens pour la première fois à Marseille, en tant que lesbienne politique. J'arrive à Marseille, on est au cours Julien, au restaurant vénitien, gay, etc. Les serveuses et les serveurs ont tous un t-shirt franc-moix. Sur la table, pour manger, il y a des préservatifs. Pour finir, on nous donne des sucettes où il y a écrit « Suce-moi ». Donc j'ai cherché à dire la mienne quand même, sans les offenser ou sans les prendre, parce que voilà. J'ai dit « Moi, je ne suce pas les cons ». Mais ça peut prendre le con, et le con, voilà. Ce qui est grave, je trouve qu'il n'y a pas de relève et que je suis triste, malgré que tout le travail qu'on a fait, probablement les organisatrices, qu'on est là entre nous à faire de la masturbation, si j'ose dire, de la masturbation sur les choses qu'on connaît. Tout ici connaissent Michel Kohs, et c'est bien qu'il y a ça. Non, je dis en général, je voudrais voir les jeunes là. Je voudrais voir les jeunes. Ma fille, mon.
On en a une là-bas. deux.
Oui. Mais c'est grâce, et j'en termine, c'est grâce justement à ce travail de lesbiennes qui se sont mis avec les gays que nous, on en est là, toujours, à demander des droits. Quels droits? Je ne veux pas le droit de mariage, je veux un droit individuel. Oui, je veux un droit individuel. Et le slogan « Mariage pour tous » et homoparentalité, c'est leur devise. Ils n'en sortent plus de là. D'accord. Et je termine avec Elton John qui a dit à la télé, nous sommes des parents heureux, nous sommes dans le stress, mais on a eu une femme qui nous a fait un beau bébé, un beau garçon, et on a une nounou qui s'en occupe et qui l'élève. J'en termine.
C'est bien, là, oui.
Juste sur les gays, alors, première intervention, réponse à Claude. Il y a certains gays qui ont des raisons de se révolter. D'abord parce qu'ils sont un groupe peut-être dominant en tant que gays, mais en même temps, ils ont quand même, il y a pas mal d'homophobie, comme il y a de la lesbophobie, première chose. Et ensuite, le système est pourri, le patriarcat est pourri. Donc, il y a des gens qui se révoltent, même des hommes, qui se révoltent contre le système pourri, comme il y a eu des gens qui se sont révoltés que quand on avait des colonies, il y a des gens qui étaient des blancs qui étaient anticolonialistes, donc il y a des gays qui peuvent être anti-pouvoir masculin. Donc je pense que bon, moi c'est la réponse que je te donne. Donc voilà. Quant à toi, en ce qui concerne la haine des hommes, il ne faut pas confondre la haine et la fureur. La fureur, on l'a parce que on est un groupe de dominés. Et la haine, non, c'est pas de la haine. Il y a des raisons de se révolter. Il y a de la fureur. Et bon. C'est tout, mais ce n'est pas obligatoirement de la haine. Mais c'est de la rage, c'est de la fureur. Et justement, ça va faire le lien avec notre groupe de Valérie Solenas. Donc je garde le micro, si vous permettez.
Bien sûr.
Ah bon. Bon, alors la santé des femmes, je ne sais pas si ça rentre dans les groupes de discussion.
Du sida.
Oui, en fait. Hein, ah, ben moi j'avais compris le cancer, mais bon, je dormais plus ou moins, mais bon. Si vous cumulez 20 ans de rayons pour la prévention du cancer du sein, ben vous êtes sûr d'en avoir. Vous êtes dans les bonnes proportions pour en avoir un. Voilà. Au nom de la détection précoce du cancer du sein. Voilà. C'était.